Merci, effectivement je suis très heureux moi d'être parmi vous parce que c'est toujours un réel plaisir que de pouvoir venir auprès des lycéens et des futurs étudiants pour justement essayer de faire passer un certain nombre de messages et puis vous parler de choses qui, même si elles se déroulent sur des échelles de temps géologiques, c'est-à-dire plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années, voire le milliard d'années, et bien le fait d'en parler, ben je vais essayer par ce biais-là de vous faire un peu toucher le plaisir qu'on a quand même à y travailler, même si notre espèce humaine finalement a une durée de vie très 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 petite par rapport à ce dont je vais vous parler. Alors avant de vous parler un peu de ce thème, la tectonique des plaques, que je repositionnerai dans un espace global qui est quand même la Terre, je vais rapidement me présenter et vous parler un tout petit peu de mon cursus pour savoir un peu qui je suis. Donc actuellement je suis professeur à l'université de Nice-Sophia Antipolis et je dirige en fait deux choses, le département Terre, Environnement, Espace qui regroupe environ 350 étudiants et une offre de formation qui traite du problème des géosciences. Alors les géosciences c'est très large, hein. Il y a donc l'aspect géologique, il y a la géophysique, il y a la géochimie, mais aussi toutes les problématiques, je dirais, liées à l'environnement, qui est un point, je dirais, très étudié et très utilisé à l'heure actuelle. Donc les problèmes de gestion de l'environnement, développement durable, et ainsi de suite. Donc, à ce titre-là, je pourrais aussi répondre à des questions si vous souhaitez, parce que les métiers dans le domaine des géosciences, c'est un secteur qui s'ouvre et qui s'est ouvert déjà il y a quelques temps avec le problème environnemental et le problème de l'eau, puisque c'est, je dirais, le grand challenge dans les années, dans les dizaines d'années qui viennent, la gestion de l'eau, la qualité de l'eau. On parle beaucoup de l'eau, mais il y a aussi l'air. L'air, hein, sans l'air, on ne serait pas grand-chose. On n'en parle pas encore beaucoup, bien que maintenant, des fois, on se balade sur les autoroutes et on voit, attention, ralentissez vos véhicules, pollution d'ozone, et ainsi de suite. Et puis, bien entendu, tout ce qui va avec. L'eau, l'air interagissent avec les sols, donc la notion de pédologie, la pollution des sols, la gestion des sols, ce sur quoi nous vivons, arriver à le maintenir, à le faire évoluer dans de bonnes conditions et bien sûr à le transmettre à nos descendants de manière la plus saine possible. Et puis bien sûr, au fur et à mesure que l'on remonte un petit peu, ben on remonte aussi dans le temps et on va aborder des problématiques aussi, je dirais, complexes mais intéressantes que la tectonique des plaques. Et comme vous le verrez, tectonique des plaques, c'est la dynamique de la Terre. Alors, pour continuer et arriver donc avant à la notion, je dirais, de oui, je suis professeur d'université, mais avant qui j'étais, en fait, l'idée de faire des sciences de la Terre m'a toujours plu, et en fait, il a démarré à peu près à l'âge de 12-13 ans, quand j'ai vu un film de Haroun Taziev, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui est un volcanologue, je dirais, quand même réputé, qui a fait passer justement énormément de savoir et de sensibilisation sur le domaine géosciences vers les jeunes. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai voulu être volcanologue, comme beaucoup, hein, superbe, aller se balader sur les volcans. Et j'ai essayé, j'étais malheureusement pas très bon élève. Il a fallu attendre la première terminale pour commencer, je dirais, être un peu meilleur. Et néanmoins, ça ne m'a pas donné, je dirais, l'envie d'arrêter, de changer de voie. J'ai continué à faire ça et je me suis renseigné, en fait, auprès de collègues que connaissaient, je dirais, mon père, ma famille, quoi, mon réseau. Et j'ai pu, comme ça, poser des questions. Comment pouvait-on devenir volcanologue? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Haroun Taziev, j'ai eu la chance de rencontrer Claude Allègre, quoi, des chercheurs en fait, et qui m'ont dit, ben voilà, si tu veux être volcanologue, tu as plusieurs pistes, un géologue ou physicien ou chimiste. Comme vous allez voir, effectivement, aborder le problème de la thématique de la Terre nécessite parfois de la pluridisciplinarité, pardon. Et donc on m'a dit, ben, si tu es bon en physique, fais de la physique, si tu es bon en chimie, fais de la chimie, ainsi de suite. Puis j'avais une petite fibre physicienne, et donc à la fin de ma... Quand j'ai obtenu le bac, je suis parti vers les études de physique à l'université. Je souhaitais faire l'université parce que je me sentais plus à l'aise peut-être aller vers une école. Et donc j'ai fait l'université et j'ai gravi tout doucement, je dirais, les années universitaires. J'ai fait comme ça un DUG à l'époque, maintenant on appelle ça un licence à bac plus 3, et puis une maîtrise de physique fondamentale. Et puis là, je commençais quand même à en avoir marre. Je voulais parler de physique nucléaire, atomique et tout. Là, ça, c'est un peu fatigant. Et donc, j'ai fait ensuite ce qu'on appelle un DEA, c'est-à-dire un bac plus 5, maintenant le niveau master 2, dans le domaine des géosciences et géophysique. Et là, j'ai commencé à appliquer en fait mes bases de physique aux problématiques de la Terre. Et puis, grâce à cela, j'ai pu ensuite débuter une thèse, donc un doctorat, donc bac plus 8, donc tout en étant donc en contrat à durée déterminée, puisque quand on fait une thèse, bah, on est payé pendant 3 ans pour faire traiter un problème fondamental. Et moi, j'ai travaillé sur les inversions du champ magnétique terrestre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai essayé de comprendre pourquoi le champ magnétique terrestre avait eu ou avait la bonne idée de s'inverser au cours des temps géologiques. Et puis à la fin de cette thèse, donc qui a duré 3 ans, comme beaucoup d'autres, j'ai voulu tenter ma chance dans les domaines publics, donc l'université, le CNRS. C'est pas simple, il y a de la compétition. J'ai mis 2 ans avant d'intégrer l'université. Et en attendant, je travaillais sur des contrats temporaires, des CDD en fait. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer l'université à Paris 11, Orsay, dans le domaine des géosciences, mais de la physique également. Donc j'étais rattaché à un département de physique. Et là, j'ai fait tout autre chose. J'ai travaillé sur les problèmes de mécanique des fluides et des transferts, sur les problèmes de cristallisation. Donc, vous voyez que finalement, la voie professionnelle change, évolue, et on ne reste jamais dans un seul canal. On est amené à évoluer. Et puis, au cours de mon cursus, au bout de 9 ans passés, 10 ans passés à Paris 11, j'avais envie de bouger, j'avais envie de changer un peu, et j'ai eu l'opportunité de partir sur Nice, où je suis maintenant, et je suis donc rattaché au laboratoire Géosciences Azur, qui se trouve sur l'université de Nice Sophia Antipolis, et qui a développé en particulier le sismo des écoles, et je sais qu'ici, il y a une station sismologique, basée donc dans votre lycée. Et donc, je travaille maintenant dans ce laboratoire sur 2 problématiques, la tectonique des plaques et les zones de subduction. On va en parler un tout petit peu et je vous montrerai quelques résultats de recherche fondamentales que l'on mène à l'heure actuelle sur les mécanismes de subduction. Et puis, je travaille également sur les problèmes d'instabilité de terrain, les mouvements gravitaires, donc comment un terrain se déstabilise et peut engendrer des catastrophes humaines, sociétales. Et donc, je travaille aussi là-dessus à développer des outils pour essayer de prédire, de comprendre les glissements de terrain, au même titre qu'on essaie de comprendre les tremblements de terre et de mettre au point des techniques de suivi, comme les sismos que vous avez ici dans votre lycée. Voilà, et puis maintenant, j'évolue, et donc je suis au sein de cette université, et je participe à la vie et au déroulement de cette université à travers le département Terre, Environnement, Espace. Voilà, alors les métiers, encore un tout petit mot sur les métiers de géosciences. C'est vrai que c'est des métiers qui sont, je dirais, de plus en plus larges. Vous allez voir à travers mon exposé, en fait, la géologie, effectivement, est une discipline très vieille. C'est une discipline qui intéresse de très nombreux, qui a intéressé beaucoup de personnes. Et je dirais, le premier point, c'était l'aspect planétologie. Effectivement, il y a une lune, il y a des planètes, mais le meilleur moyen de connaître ces planètes-là, c'est déjà de connaître la nôtre. Et donc, des gens ont travaillé sur la géologie, ont été géologues, mais très, je dirais, ça a duré jusqu'à peu près au 19e siècle, et puis progressivement, on s'est aperçu que le géologue, il avait une vision de l'espace autour de lui, une reconnaissance de surface, mais pour comprendre cette surface, il allait falloir descendre en profondeur. Descendre en profondeur, à part prendre sa pelle, sa pioche et creuser, on s'aperçoit que ça devient très, très limitatif, et il faut faire appel à des méthodes, à des techniques différentes, qui sont portées entre autres par la chimie, la physique, les mathématiques. Et de ce fait, on voit émerger un certain nombre de métiers qui se sont donc développés au cours du XXe siècle et continuent à l'heure actuelle, donc de géophysique, géochimie, et ainsi de suite. Et après, des personnes qui vont travailler justement sur les problèmes de géo-ingénierie, par exemple le stockage du CO2, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, comment stocker ce CO2 ? Eh bien, il va faire appel à des connaissances de géologie, de physique, de chimie. Et ces métiers, par exemple, de géo-ingénierie, se développent de plus en plus. Alors, quand on commence à parler de géo-ingénierie, on va aussi commencer à parler... lorsqu'on veut construire un bâtiment comme celui-ci, il faut qu'il tienne le coup pendant un certain nombre d'années. Donc, il va falloir étudier le sol. Il va falloir échafauder toute une série de petits calculs pour que, un, ce bâtiment tienne, mais que le sol dessous tienne aussi. Et donc, vous allez avoir des métiers, une grande palette de métiers, qui vont traiter de ces problèmes du sol, que ça soit sur quelques mètres ou sur quelques dizaines de mètres. Mais quand on travaille sur un bâtiment comme celui-ci, il y a aussi donc tout le problème de l'eau. Lorsqu'un terrain est bétonné, par exemple, voilà, c'est bon, voilà. Quand un terrain est bétonné comme celui-ci, il va falloir gérer l'eau. Donc on voit arriver maintenant des métiers, effectivement, sur le problème de la gestion de l'eau, sur l'impact. Et donc, de plus en plus de jeunes trouvent des métiers à bac plus 5, effectivement, sur la notion de gestion de l'environnement. Et donc, ce sont des nouveaux métiers, et là, il y a beaucoup d'opportunités. Et, je ne vais pas faire la palette entière, mais sachez que à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, il y a de nombreuses possibilités à travers soit des écoles, soit à travers l'université. Et effectivement, je dis international parce qu'on s'aperçoit, par exemple, comme le Canada, comme l'Australie, font de plus en plus attention à ces problématiques également. Et je vois, moi, des étudiants qui sortent de mon master que je dirige, qui s'appelle Aménagement et Géo-ingénierie, sont embauchés en Amérique du Sud, au Canada, en Australie, sur des problématiques environnementales. Voilà. Si vous avez des questions, vous pourrez éventuellement les poser tout à l'heure. J'y répondrai, j'essaierai d'y répondre le plus fidèlement possible. Et je vais peut-être maintenant vous parler un petit peu de cette tectonique des plaques. Je ne sais pas si vous m'entendez bien derrière, sinon je peux encore hausser le son.
Ça marche.
Voilà. Et sinon, de toute façon, j'ai un peu l'habitude des fois de parler bien fort, puisque quand je me retrouve devant un amphi de 300 personnes, il n'y a pas de micro toujours à l'université, parce que ça tombe en panne aussi. Hein. Donc, si jamais ça tombe en panne, j'essaierai d'y aller avec la voix. Alors, histoire et réalité d'une théorie, je vais parler de la tectonique des plaques. Effectivement, on m'a demandé de parler de la tectonique des plaques. C'est une grande problématique, parce que la théorie, effectivement, de la tectonique des plaques, c'est la nouvelle théorie des sciences de la Terre qui a posé, je dirais, les bases de la géologie moderne. Et je vais donc vous parler un peu de ce contexte. Parler de la tectonique des plaques, c'est aussi parler de la Terre dans son ensemble, parce qu'on va effectivement aborder comment une plaque bouge, pourquoi elle bouge, comment elle bouge. C'est simple de dire que c'est une théorie qu'elle existe, mais faut-il encore le prouver? Et c'est là, je dirais, tout l'intérêt de cette théorie et de sa vie au cours du XXe siècle. Alors, je vais, dans un premier temps, repositionner tout ça. La Terre, vous le savez, existe depuis environ 4,5 milliards d'années. C'est une planète qui vit, qui est dynamique. Hein. Il y a des tornades, il y a des instabilités, je dirais, la pluie, le climat, les volcans, les séismes. Toutes ces notions qui sont autour de vous, avec des échelles de temps plus ou moins grandes, mais qui montrent que la Terre ne cesse d'évoluer au cours de sa vie. Et pourtant, parmi tous ces paramètres, on peut se poser la question de tous ces phénomènes. Y a-t-il un lien entre tous ces phénomènes? Existe-t-il un paramètre clé qui va plus ou moins contrôler, à des constantes de temps différentes, l'ensemble de ces phénomènes? Ça, c'est une question que l'on peut se poser en tant que chercheur. Grand débat, puisqu'on voit qu'on va travailler sur des problèmes atmosphériques, sur des problèmes de géosphère, et on peut en tout cas se poser cette question-là, et je vais essayer de répondre en partie à cette question à travers justement la tectonique des plaques. Si on regarde la Terre au premier regard, qu'est-ce qu'on constate? Elle est constituée d'une atmosphère et d'une géosphère. On peut se poser la question, pourquoi la Terre est constituée de deux entités aussi distinctes et aussi dissemblables que l'atmosphère et la géosphère, c'est-à-dire cette partie solide qu'il y a derrière vous. Je ne sais pas si vous voyez bien, à mon avis, c'est peut-être pas terrible, mais ce n'est pas grave. On va dire, l'essentiel, c'est de m'écouter, et puis voilà. Ensuite, l'atmosphère, comme je vous le disais, présente des instabilités. Qu'est-ce que c'est qu'une tornade? Qu'est-ce que c'est qu'un ouragan? Qu'est-ce que c'est qu'une tempête? Là aussi, on peut se poser la question. Et on peut voir, effectivement, après réflexion, qu'il y a un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi avons-nous une atmosphère et pourquoi nous avons une géosphère? On peut continuer ce type de questions. Les aurores boréales, vous en avez entendu parler, ces manifestations assez bizarres que l'on observe au pôle Nord et au pôle Sud. Vous le savez, ce sont des manifestations du champ magnétique terrestre avec les interactions des particules qui nous viennent du Soleil. Mais pourquoi ces fluctuations? Qu'est-ce qu'elles sont? Et à ce moment-là, d'où vient le champ magnétique de notre planète? Qu'en est-il? Donc là aussi, c'est une question à laquelle on peut donc on peut se poser et essayer d'y répondre.
Je vais vous emprunter votre micro, le fond de mettre une pilette.
D'accord. Si maintenant on commence à zoomer un petit peu, je dirais, ce regard, on s'aperçoit que la surface de notre planète est constituée de continents et d'océans. Pourquoi avons-nous des continents et des océans? Qu'est-ce que c'est qu'un océan par rapport à un continent? Cette question aussi simple, eh bien finalement, elle est très 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 compliquée. En quoi, et vous allez le voir, en quoi un océan se distingue d'un continent? Répondre à cette question-là, c'est en fait répondre, et vous allez le voir, à la notion de tectonique des plaques. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tectonique des plaques? Si on regarde un petit peu plus sur ces plaques, justement, dont on va définir un peu le contour tout à l'heure, il y a le volcanisme, ça on l'observe tous. Qu'est-ce que c'est qu'un volcan? Pourquoi le volcan se manifeste d'un seul coup? Y a-t-il une périodicité d'explosion volcanique? Qu'est-ce qu'il représente en termes de physique, de mécanisme, par rapport à la tectonique des plaques et par rapport à la Terre? Est-ce que ce sont les soubresauts finalement de la planète Terre qui s'exercent à travers ces crises volcaniques? On l'a également à travers les séismes. J'ai mal appuyé sur le truc. À travers les séismes. les tremblements de terre, merci, les tremblements de terre, effectivement, représentent une manifestation à la surface de notre sol, mais vraisemblablement est le signe d'une dynamique peut-être beaucoup plus profonde, au même titre que le volcanisme. Comprendre un séisme, c'est aussi peut-être comprendre la tectonique des plaques, et ainsi de suite. Et puis finalement, la question, je dirais, qui est un petit peu à l'origine de la tectonique des plaques, c'est les montagnes. Qu'est-ce que c'est qu'une montagne ? Si je vous pose la question, là, est-ce que vous êtes capable de me dire ce que c'est qu'une montagne ? Eh bien, la réponse à cette question, on ne la connaît que depuis environ une quarantaine d'années. Avant 1960-65, on ne savait pas répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une montagne ? On ne savait pas. C'est un bidule, c'est un truc plus ou moins plissé à la surface du globe. Mais on ne savait pas ce que c'était qu'une montagne. Et alors, d'autant plus étrange cette question que lorsqu'on regarde, et là, malheureusement, on ne voit pas, mais il suffit d'aller à Digne ou même, je pense, à la Sainte-Victoire-Sœur, on observe qu'à des altitudes, je dirais, importantes, en tout cas au-dessus du niveau de la mer, on observe des fossiles marins qui se baladent à 3 ou 4 000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'ils foutent là-haut, ces fossiles marins ? Comment sont-ils arrivés là-haut ? Alors, bien sûr, on le sait maintenant, mais il y a encore 60 ans, personne n'était capable d'expliquer pourquoi les fossiles marins étaient à 4000 mètres d'altitude. On avait des idées, mais personne ne pouvait le prouver. D'où la notion de théorie et de rechercher un concept, une idée, qui va essayer de donner un sens à tout ça. Et c'est ça la difficulté, je dirais, du chercheur et de son travail. C'est arriver à trouver un concept, une idée, une théorie, qui va être ensuite validée par des faits, par des observations. Alors pour répondre justement à cette notion, quel est le paramètre qui pourrait, je dirais, relier tout cela, eh bien je vais vous prendre l'exemple de la tectonique des plaques. La tectonique des plaques, c'est une théorie donc qui est la théorie des géologues, je dirais, du XXe siècle et de maintenant, qui est la base. Elle a été proposée par un certain monsieur qui s'appelle Alfred Wegener, qui était météorologue, et dont les années donc 1880-1930. Ce monsieur Wegener, je dirais, à imaginer des choses à partir du travail existant, il est parti d'un certain nombre de résultats, et ce monsieur, justement, va proposer une idée fulgurante qui est cette tectonique des plaques. Alors, je vais vous la raconter, et je vais vous démontrer, avec les outils que j'ai aujourd'hui, comment il a pu faire et comment ça a été validé. Avant cela, je voudrais quand même replacer cette tectonique des plaques, cette théorie. Cette théorie, en fait, elle apparaît donc au début du XXe siècle, dans une dynamique assez forte des sciences, la chimie, avec la notion donc, de radioactivité qui est découverte à la fin du XIXe siècle, donc il y a beaucoup d'effervescence scientifique, et puis très rapidement, au début du XXe siècle, on a la mécanique quantique, tout ce qui va donner cette notion, je dirais, de présence et de présence invisible ou réelle, la notion de monde parallèle, hein, que l'on peut, qu'on pourrait expliquer, avec donc Bohr, Einstein, Heisenberg, en particulier, qui vont donc vous décrire que la lumière qui s'échappe de ces ampoules est à la fois onde et à la fois particule. Et ça devient quand même assez compliqué dans la mesure où comprendre des phénomènes comme ça sur une notion de dualité demande une certaine gymnastique de l'esprit et surtout après une théorie. Eh bien, Wegener, il va reposer un peu, je dirais, sa théorie sur cette notion de dualité. Indirectement, il va dire... Ce que j'observe en surface, eh bien, a forcément un lien avec des choses qui se passent en profondeur. Quel est ce lien ? Et en fait, il va repositionner sa théorie sur cette problématique de dualité entre la géologie de surface et la géologie de profondeur. Avant Wegener, quand même, je voudrais replacer des choses. Qu'est-ce qu'il y avait avant Wegener ? Donc avant 1910, on va dire avant le XXe siècle, il y avait en fait toute une série de théories. Il y en avait une qui était la théorie du catastrophisme, qui a prévalu jusqu'à peu près au XIXe siècle et même au début du XXe, qui considérait que la Terre, effectivement, avait été fabriquée en un temps relativement court, et donc elle avait eu sa forme actuelle, avec ses montagnes, ses vallées, et ainsi de suite, figée en un temps très très bref, et qu'après, il n'y avait plus eu d'évolution marquante de l'histoire de la surface du globe. Toutefois, au cours des âges, on a pu s'apercevoir qu'il y avait des géologues, des naturalistes, qui avaient quand même vu des choses. En particulier, donc, M. Placer, en 1668, qui, effectivement, indirectement, pense qu'il y a eu des déplacements de choses. Il dit, par exemple, avant le déluge, il n'y avait qu'un seul bloc continental, c'est par effondrement au centre de ce bloc que l'Atlantique a été créé et que deux blocs séparés sont nés. Il ne dit rien, il ne prouve rien, mais il suggère qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu donc une grande fracture et que cette fracture s'est propagée à l'échelle du globe pour créer l'Atlantique. Si on revient, si on commence à remonter un tout petit peu dans les âges, et bien pareil, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres, et je vais peut-être passer l'ensemble, Pellegrini ou même Darwin, qui imaginent qu'il y a eu propagation de fractures à la surface du globe qui ont donné naissance à des blocs continentaux qui auraient pu bouger. Mais ils ne prouvent rien, surtout qu'à l'époque, dire que ça bougeait et que c'était venant d'un autre phénomène que celui qui régit la planète à ce moment-là et pouvait être passible, je dirais, d'être au bûcher. Néanmoins, ils ont quand même avancé des idées. Et alors, en particulier, il y a celle que j'aime bien, c'est Georges Darwin. Donc, c'est le second fils de Charles Darwin qui parle de mobilité des continents à travers la création de la Lune. Dans ses livres, il est le premier à dire « La Lune a été arrachée à la Terre ». Alors, c'est marrant, on est quand même en 1879, et c'est vrai, la Lune est un astre né de la Terre par un impact météorite. D'accord ? Donc, il y a des choses comme ça qu'on retrouve dans les écrits et sur lesquelles va se baser une personne à un moment donné pour continuer à échafauder une théorie. Il y a un certain monsieur Taylor, 1910, qui en fait est le premier à avoir, je dirais, commencé à parler de la tectonique des plaques, mais sans le présenter devant une population de scientifiques et en essayant de prouver les choses. En fait, c'est Wegener qui va faire un travail, un bilan phénoménal. Et Wegener, en fait, il va poser sa théorie sur la notion d'Archimède, sur la notion d'isostasie. Vous savez qu'Archimède vous dit qu'un corps, un corps peut flotter, et que de ce fait, en flottant, il va y avoir une structure immergée, une structure submergée, et que cette notion de flottaison, c'est une notion d'équilibre des forces à l'échelle de la structure qui flotte comme le glaçon. Eh bien, Wegener, lui, il va dire, mais si on accepte le mouvement vertical, pourquoi n'accepterions-nous pas le mouvement horizontal? Dans le principe, pourquoi pas? Faut-il encore le prouver? Et en fait, c'est à partir de cette réflexion et c'est à partir de cette notion d'isostasie qu'on va commencer à émettre l'idée d'une dérive des structures qui sont à la surface du globe. Parce qu'on sait à l'époque que les structures continentales, qu'il y a des variations de densité à la surface du globe et que les structures continentales sont plus légères que d'autres structures, comme on peut le voir à travers les roches volcaniques, par exemple, qui sont des densités beaucoup plus lourdes. Alors, les arguments de Wegener. Effectivement, Wegener, donc en 1910, arrive devant une communauté scientifique et il va commencer à leur raconter sa théorie. Sa théorie, en fait, c'est plus des arguments. Il va essayer de leur montrer, leur faire comprendre qu'il se passe quelque chose à l'échelle planétaire. Il va donc arriver, ça c'est ce qui se passe régulièrement dans la communauté scientifique, on se retrouve face à des collègues et on leur explique nos résultats, nos travaux, et on essaye de les faire valider par la communauté scientifique à travers des articles ou à travers des exposés comme celui que je suis en train de faire. Donc je vais me mettre un petit peu dans la peau de Wegener. Voilà, 1910, 1912, il est face à vous et il essaye de vous convaincre. Grande difficulté. Il dit, ben voilà, chers amis, quand on regarde nos continents, certains ont des ressemblances très étranges malgré la présence d'un océan qui les sépare. Il s'appuie pour cela sur la notion du continent sud-américain, sur le continent sud-américain et le continent africain. Il s'aperçoit que de part et d'autre de cet océan, eh bien, il existe des structures géologiques identiques qui pourraient être les mêmes s'il n'y avait pas cet océan. Il constate également que la notion de cartographie, c'est-à-dire les contours de ces continents, s'emboîte parfaitement si cet océan n'existait pas. Donc, lui, tout simplement, il prend une paire de ciseaux, il dit, voilà, si on fait ça et qu'on enlève l'océan Atlantique, je le fais disparaître, eh bien, j'obtiens cet assemblage. Et ce qui est fantastique, c'est que les unités géologiques qu'on a de part et d'autre de l'océan Atlantique qu'on a fait disparaître en un coup de claquement de doigts, eh bien, s'alignent et sont en parfaite cohérence, ainsi que le contour topographique. Cela suggérerait donc, chers collègues, que ces deux continents dans un temps reculé étaient l'un à côté de l'autre. Oui, certains disent d'accord, mais votre océan Atlantique, il a fallu le faire partir. Exact, j'ai pris ma paire de ciseaux. Mais comment vous l'avez fait partir ? Je ne sais pas, on en discutera un petit peu plus tard. Soit, très bien pour l'Atlantique du Sud, mais l'Atlantique du Nord, comment vous faites? Eh bien, cher ami, c'est la même chose. Si on regarde la géologie de part et d'autre de l'Atlantique du Nord, on s'aperçoit
ici que lorsque j'enlève. Donc vous avez ici le continent européen, puis vous avez ici le continent nord-américain. Et bien lorsqu'on les rapproche, on s'aperçoit qu'ils s'alignent parfaitement avec donc des massifs montagneux identiques de part et d'autre, donc de l'océan Atlantique Nord. Tout ceci donc suggère que tous ces continents étaient les uns à côté des autres. Bien, est-ce suffisant pour dire autant que les continents se sont déplacés au cours des temps géologiques? Non, faut-il encore trouver d'autres marqueurs indépendants de ces notions géologiques ou cartographiques qui vont dans le même sens? Donc c'est là le point fort d'Alfred Wegener, c'est qu'il va faire une recherche générale d'un très grand nombre de données indépendantes les unes des autres pour voir si elles vont dans le même sens. La position actuelle des continents, et à partir de sa cartographie et de sa géologie, il en arrive à un seul continent, donc que l'on a appelé la Pangée, et qui serait cela. Alors, trouver d'autres arguments, eh bien il va en trouver d'autres. Par exemple, sur les notions de paléontologie et de paléobiogéographie. Il constate, toujours, il prend comme exemple le continent sud-américain et africain, il constate, ainsi que le pôle sud, que de part et d'autre, on retrouve pour les mêmes périodes, environ 240 millions, 260 millions d'années, dans les couches géologiques, on observe des fossiles d'animaux identiques de part et d'autre. Alors, à moins d'imaginer la naissance spontanée, il dit que c'est quand même pas évident d'avoir à la même période, à la même époque, des êtres qui naissent d'un seul coup de part et d'autre de l'Atlantique. Il serait beaucoup plus facile de rapprocher ces continents les uns des autres et de permettre ainsi à ces animaux de traverser, de passer d'un continent à un autre sans se mouiller. Et donc, il vous dit, si je raccroche encore tous ces continents les uns à côté des autres, je retrouve la même image Pangée que j'ai définie tout à l'heure, et donc ces marqueurs paléontologiques vont dans le même sens que mes marqueurs géologiques ou cartographiques. Donc, chers amis, ça fait quand même le deuxième élément qui va dans le même sens, deuxième élément indépendant du premier. Mais il ne s'arrête pas là, il continue. Il dit, maintenant si je fais appel à des notions de marqueurs glaciologiques, on s'aperçoit que nos continents actuels, en particulier le continent sud-africain, sud-américain, australien et même indien, présentent des traces de glaciers qui indiquent une direction d'échappement des continents par rapport aux autres. C'est ce qui est indiqué par ces flèches rouges. Si j'enlève les océans qui sont autour de ces continents, eh bien, je m'aperçois que j'arrive à fitter l'ensemble de ces données, glaciologiques, avec le même rassemblement de continents, la Pangée, au même titre donc que la solution que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc, M. Wegener arrive à une proposition qui est de dire que ces continents, à un moment donné de l'histoire de la planète, étaient tous les uns à côté des autres, et que les océans n'étaient pas là. En tout cas, ils étaient autre part. Malgré cela, il n'est pas arrivé à prouver que la tectonique des plaques ait eu lieu, mais il a lancé l'idée. Et sa théorie n'a pas été acceptée. Il a fallu attendre une cinquantaine d'années pour que sa théorie soit clairement acceptée par la communauté scientifique. Effectivement, il y a eu plusieurs questions qui sont venues de la salle. Certaines, par exemple, concernaient les données de paléontologie. Certains m'ont dit, vos animaux que vous trouvez de part et d'autre, en fait, il existait avant, vraisemblablement, des pots intercontinentaux, qui sont ces traits blancs que j'ai dessinés, et qui étaient, en fait, au-dessus du niveau marin. Et ces ponts, en fait, permettaient aux animaux de passer d'un espace à un autre. Soit, mais à ce moment-là, il faut retrouver ces ponts continentaux. Cherchons-les. Ils ont donc commencé à chercher ces ponts, intercontinentaux, et de mettre en évidence éventuellement donc une faille dans la théorie, la proposition de théorie de Alfred Wegener. Ça va donner naissance à une discipline importante qui est l'océanographie, c'est-à-dire l'étude en particulier des fonds marins. Comment sont nos fonds marins? Qu'est-ce que c'est qu'un fond océanique et comment est-il structuré? Donc les gens vont partir à la recherche de ces ponts intercontinentaux, mais tant qu'ils n'ont pas la certitude que ces ponts n'existaient pas, la théorie de Wegener n'est pas acceptée. De la même manière, ils se disent, soit, vous nous dites qu'il y a à peu près 240 millions d'années, tous ces continents étaient les uns à côté des autres, il n'y avait pas d'océan. Mais qu'est-ce qui se passe au fond des océans avant 200 millions d'années? pourquoi ont-ils été modifiés, ces fonds océaniques, puisqu'un océan arrive et disparaît? Qu'est-ce qui se passe? Pareil, devant cette question, Wagner est incapable de répondre. On n'en sait rien, puisque à l'époque, on ne savait pas ce qu'il y avait au fond des océans. On savait ce qu'il y avait au bord de la plage, mais c'est tout. Mais à 3 ou à 4 km, voire 10 km de profondeur, on ne savait pas ce qu'il y avait. Et puis surtout, le grand problème de sa théorie, c'est la suivante, c'est cette question. Quelle est la nature des forces qui permettent à ces continents de bouger? Comment ces continents bougent? Qu'est-ce qui fait qu'un continent bouge? C'est quand même une masse colossale. C'est une surface énorme sur une profondeur éventuellement importante. Quelle est la force qui se cache derrière? Comment on arrive à bouger? Simple, moi si je veux bouger une table, je la bouge, j'exerce une force dessus, une pression, d'accord? Une force par unité de surface. Mais un continent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un être, il n'y a personne qui pousse sur ces continents, il se passe quelque chose. Et alors là, effectivement, Wagner était complètement sec. Donc tous les mathématiciens, tous les physiciens étaient là, ah, c'est bien votre théorie, mais il faut vous expliquer ça. Ben oui, mais il a eu au moins le mérite de la proposer. Et à partir de là, en fait, on va avoir une effervescence scientifique au même titre, parallèlement, qu'il y avait la physique et la chimie. Et lors de 1920 à 1960, on voit une effervescence. Et on voit la création de nouvelles disciplines scientifiques. En particulier la sismologie, qui existait déjà quand même, hein, puisqu'on savait déjà la structure de la Terre un petit peu avant 1910. En tout cas, c'est à cette période qu'on détermine l'existence d'un noyau au centre de la planète. Il y a eu l'océanographie, la géochimie, grâce à la radioactivité. Les chimistes, à cette époque-là, disent « Bon, ok, il faut qu'on arrive à amener des marqueurs à cette théorie et qu'on puisse la faire avancer. » Peut-être que la notion de radioactivité va permettre de dater des roches. Et effectivement, cette notion de géochimie et de radiochronologie va être, je dirais, un des points fondamentaux qui vont permettre de prouver la tectonique des plaques. Et puis, il y a une autre chose, une autre discipline, qui est l'étude du champ magnétique terrestre. L'étude du champ magnétique terrestre, effectivement, va permettre de démontrer qu'effectivement les fonds océaniques bougent. Elle va démontrer qu'ils bougent, mais elle ne va pas expliquer comment ils bougent et pourquoi ils bougent. Ça, c'est encore d'autres questions, mais il faut avancer progressivement. Si on prouve qu'il y a eu mouvement, après, on se posera la question, comment ça bouge? Le micro, si vous m'entendez, c'est bon?
Il faut
que je tienne comme ça, d'accord. Alors, le champ magnétique, effectivement, terrestre, c'est une discipline qui est née à ce moment-là. Et donc, les gens, avec les physiciens, vont commencer à étudier ce phénomène-là. L'étude du champ magnétique terrestre va amener à deux études fondamentales. Le magnétisme des roches et le champ magnétique terrestre en lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce champ magnétique qui nous englobe, qui nous entoure, mais que l'on ne voit pas, qui est là, pas non palpable, mais qui participe à notre environnement. Il va y avoir effectivement deux grandes découvertes entre 1920 et 1960. Ces deux grandes découvertes, en fait, une c'est l'aimantation des roches sédimentaires et volcaniques. On démontre et on découvre que les roches, au moment où elles se créent, deviennent de vraies mémoires magnétiques. Elles vont capter, enregistrer le champ magnétique terrestre existant au moment où la roche se forme. Au même titre que votre cassette magnéto, alors je sais qu'on ne l'utilise plus beaucoup maintenant, mais les cassettes magnéto, elles sont vierges à un moment donné, vous les passez dans la machine, elles enregistrent un film ou une musique, et cette musique va perdurer aussi longtemps que vous ne détruirez pas cette cassette ou que vous ne la mettrez pas près d'un feu ou d'une source de chaleur. D'accord ? On pourra peut-être comprendre plus tard ça. En fait, donc, les roches volcaniques et sédimentaires ont cette capacité, pas toutes, hein, certaines seulement, ont la capacité à mémoriser le champ magnétique terrestre existant au moment de la formation de la roche. Et ça, c'est très important, parce que ça va permettre de dire si le champ magnétique terrestre évolue au cours du temps. Et s'il évolue au cours du temps, on va peut-être avoir à ce moment-là des marqueurs d'évolution du champ magnétique terrestre, et donc des structures qui se baladent à la surface du globe. Alors, effectivement, en 1960, il y a un certain monsieur, qui s'appelle Monsieur Bruns, français, qui démontre que le champ magnétique de la Terre, au cours de son histoire, s'est inversé. C'est-à-dire que le pôle Nord et le pôle Sud se sont inversés au cours des temps. Aujourd'hui, si vous vous baladez avec une boussole, vous allez vous diriger tranquillement vers le pôle Nord, d'accord ? Mais imaginons Imaginons, il y a 780 000 ans, vous vous baladez avec une boussole d'aujourd'hui, il y a 780 000 ans, au lieu de vous diriger vers le nord magnétique, vous dirigez vers le pôle sud. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai, j'ai oublié de mettre le micro là, effectivement, il y a eu donc le champ magnétique qui s'est inversé de manière aléatoire au cours des temps géologiques et qui passe comme ça, pôle sud, pôle nord, pôle sud. Il ne s'arrête jamais à l'équateur. Il fait que ça, ces deux mouvements de stabilité. Et alors ce monsieur, il dit, ben, si maintenant j'utilise les données de géochimie, de radiochronologie, je vais sur un volcan où les roches ont la capacité à mémoriser ce champ et que ces roches datent d'il y a, je ne sais pas moi, 100 000 ans, 200 000 ans, ainsi de suite. Donc chaque coulée volcanique va être datée par les géochimistes et chaque caractéristique magnétique des roches va dire si le champ est polarité nord ou polarité sud. On va parler de polarité normale et polarité inverse. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, si chacune des coulées est datée, on va pouvoir mettre sur une ligne temporelle la notion de l'âge et la notion de la polarité. Et on va arriver à une échelle de temps qu'on appelle l'échelle magnétostratigraphique. Cette échelle magnétostratigraphique vous dit qu'au cours du temps, zéro c'est aujourd'hui, et on descend, alors j'ai mis jusqu'à 4 millions d'années, mais on pourrait aller encore plus loin, le champ magnétique terrestre a été en polarité normale quand c'est jaune, et inverse quand c'est bleu. D'accord ? Et qu'au cours des temps, comme ça, on est passé d'une période à une autre, de manière aléatoire. Cette échelle, son intérêt, c'est qu'elle va me dire que j'ai un signal enregistré par les roches volcaniques au cours des temps géologiques. Si je mets ça en horizontal avec un signal, je vais donc passer d'un signal plus 1 à moins 1, par exemple, la polarité normale, polarité sud, au cours des temps. Donc cette échelle magnétostratigraphique me donne une information d'évolution au cours du temps d'un paramètre qu'on appelle ici le champ magnétique de la Terre. Très bien, ok, continuons. Le problème de ça, c'est qu'une roche volcanique, elle n'arrive qu'à un moment donné, de manière épisodique. On n'a pas un signal continu. D'accord ? Eh bien, on va s'apercevoir, en étudiant les fonds océaniques, qu'il y a des choses similaires. Alors, effectivement, l'océanographie, l'étude des fonds océaniques, va montrer que, au fond des océans, on observe des anomalies magnétiques qui sont symétriques par rapport à une ligne que j'ai ici marquée en rouge, et qu'elles sont symétriques par rapport à un signal, avec une distribution symétrique. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que quand je date les roches en m'éloignant perpendiculairement à ces rides, elles sont de plus en plus anciennes. C'est-à-dire que sur ma ligne rouge, les roches sont d'aujourd'hui, et qu'au fur et à mesure que je m'éloigne, elles sont de plus en plus vieilles. Ça suggère donc qu'il se passe quelque chose entre la ride et loin de la ride, c'est-à-dire la dorsale médio-océanique, que j'appelle dorsale médio-océanique. Si je m'amuse à tracer perpendiculairement à cet axe de symétrie, si je me mets donc sur cette ligne-là et que je regarde le signal magnétique de part et d'autre de cette ride, ici, je m'aperçois qu'elle présente un signal plus, moins, plus, comme tout à l'heure, avec mon histoire de roche volcanique et d'échelle magnétostratigraphique, polarité normale, polarité inverse, polarité normale, polarité inverse. Là, le déclic est aussitôt. On a des roches volcaniques, là. On a ce qu'on a, le même système que l'on a au niveau des roches volcaniques, des volcans, c'est-à-dire une alternance de périodes polarité normale, polarité inverse, avec des âges de plus en plus vieux. Donc notre structure océanique présente une alternance polarité normale, polarité sud, avec des âges de plus en plus vieux à partir d'un axe de symétrie qu'on appelle la dorsale. À partir de là, effectivement, les scientifiques sont pas loin de trouver la chose. Et on est en 1960-62, un certain monsieur S va dire, ben voilà, en fait, au fond de nos océans, sur cet axe que j'ai appelé dorsale magnétique, ride médio-océanique, en fait, on a du matériel magmatique qui arrive. Ce matériel magmatique, lorsqu'il forme la lave, cette lave va se refroidir, et en se refroidissant, va capter le champ magnétique terrestre existant au moment où elle se forme. Mais cette coulée de lave qui arrive, elle arrive de manière régulière. Et comme elle ne peut pas continuer à monter en arrivant en surface, elle va pousser latéralement. Donc on va se retrouver, à un temps ultérieur, avec de la nouvelle lave, et qui va pousser sur le côté, puisqu'elle ne peut pas monter. En poussant sur le côté, elle va peut-être arriver à un moment de l'histoire de la Terre, où le champ magnétique terrestre s'est inversé. Et donc, la roche
qui se fabrique ici va avoir une aimantation magnétique inverse par rapport à la précédente. Et ainsi de suite, lorsque l'on va donc continuer à pousser, puisque ici on a un réservoir magmatique qui continue, eh bien on va s'apercevoir que l'on a un décalage latéral des coulées volcaniques, et on va donc s'apercevoir que le fond océanique, finalement, c'est une succession de structures qui sont poussées latéralement, qui donc vieillissent au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la dorsale médio-océanique, et donc nous avons ici ce que l'on appelle la dérive des plaques océaniques. Et donc le concept ou la dérive des continents est prouvé. On prouve qu'effectivement le fond océanique, c'est le lieu où les plaques tectoniques sont créées et se déplacent latéralement par rapport à des points de symétrie qu'on appelle les dorsales médio-océaniques. Donc en 1962-65, ça y est, on démontre que Wegener avait raison, les océans se sont créés de cette manière-là et que les continents se sont déplacés les uns par rapport aux autres. Si on arrive à ce point-là, ce n'est pas fini. Quelle est donc cette force, mais on l'a déjà un peu indiqué ici, quelle est donc cette force qui permet à la Terre de créer de la plaque tectonique? Avant de répondre à cela, quand même, les scientifiques se disent « Ok, on crée de la matière au niveau des dorsales, mais ma Terre, elle n'évolue pas en volume. Elle n'a pas une surface qui est en train d'accroître. C'est-à-dire que forcément, quelque part, j'ai des endroits où il y a de la destruction de matière pour équilibrer le bilan création de matière, destruction de matière. Où sont ces fameuses zones où la plaque tectonique disparaît? D'accord? Donc, les gens vont commencer à rechercher et vont donc découvrir que, je vais passer là, qu'il existe en certains endroits de la destruction de matière. Ces zones de destruction de matière, c'est ce qu'on appelle les zones de subduction. Ce sont des endroits où une plaque tectonique va passer sous une autre plaque tectonique. D'accord ? En certains endroits, vous avez deux plaques tectoniques qui s'écartent, mais lorsque deux plaques tectoniques convergent, quand on est là, soit elles vont s'écraser les unes contre les autres, soit il y en a une qui va passer sous l'autre. C'est ce qu'on appelle la zone de subduction. Alors, il y a différents mécanismes. Il y a ce qu'on appelle la rencontre ou la convergence océan-continent, où vous avez donc une plaque tectonique qui va passer sous le continent. C'est par exemple ici, donc plaque tectonique qui s'enfonce sous un continent, c'est par exemple au niveau de l'Amérique latine, la plaque pacifique qui s'enfonce sous la plaque américaine. Vous avez aussi des rencontres océan-océan. D'accord ? C'est par exemple dans le Pacifique, une plaque tectonique qui s'enfonce sous une autre. Alors, dans ce contexte-là, c'est relativement simple à comprendre, puisque la plaque océanique est construite de lave, donc de densité relativement importante par rapport à un continent qui a une densité plus légère. Donc la plaque la plus lourde subducte. Facile. Par contre, lorsqu'on a deux océans qui se rencontrent, deux océans a priori, c'est la même densité. Et bien, celle qui passera en dessous, c'est la plus ancienne, c'est-à-dire la plus lourde. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la dorsale médio-océanique, elle devient plus épaisse, parce qu'il y a du sédiment qui s'appuie dessus, et ainsi de suite. Donc en étant plus épaisse, elle devient aussi plus dense, parce qu'elle se refroidit, elle devient plus dense, et à ce moment-là, elle s'enfoncera si elle est la plus dense. D'accord ? Alors, ces zones-là, on en trouve tout autour du Pacifique. Hein. Donc là, vous avez une carte du Pacifique, avec donc l'Australie ici, l'Amérique du Nord. Et donc ces zones de subduction ici, vous en avez tout autour, là, qui se baladent. Et des dorsales, vous en avez qui se baladent aussi au milieu de la plaque, ici, ces monts sous-marins, là, ce sont les dorsales médio-océaniques. Donc, on va avoir un jeu entre création de matière, destruction de matière, et donc, phénomène géologique de surface. Quand je vois la convergence, effectivement, entre deux plaques, une plaque passant sous une autre, ça ne se fait pas tout seul. Il y a de la rigidité, une plaque tectonique c'est quand même relativement dur, et donc quand vous allez essayer de la faire passer sous une autre plaque, il va y avoir des frottements, de la friction. La plaque, à un moment donné, elle va se déformer, au même titre que vous, si vous appuyez vous prenez de la pâte à modeler et que vous l'écrasez, la pâte à modeler va se déformer, et pour aller jusqu'à la rupture. D'accord ? Donc cette zone de convergence va être le lieu de tremblements de terre relativement importants. Hein ? De la même manière, lorsqu'une plaque subducte, une plaque, elle est chargée de sédiments, elle est chargée d'eau, et lorsqu'en subductant, elle va rencontrer un milieu de plus en plus chaud, eh bien,
la plaque va se déshydrater. En se déshydratant, donc l'eau va remonter à la surface et va créer ce que l'on appelle du volcanisme en surface. Donc effectivement, les zones de convergence, comme donc en Amérique latine par exemple, vous allez avoir des volcans, des séismes, des structures plissées, puisque vous avez quand même la rencontre entre deux structures qui ne se fait pas tout seul. Là, je vous montre un autre exemple, et je vous montre un petit film sur une simulation numérique, puisque c'est l'une de mes études, c'est de travailler sur le phénomène de déshydratation. Comment une plaque se déshydrate au profit du manteau qui l'entoure, la sténosphère. Donc je vous montre ici un tout petit calcul qui va vous montrer justement ce phénomène-là. Hop là, pardon. Ça a justement foiré là. Voilà. Hop. Ah zut, maintenant on ne peut pas l'ouvrir. Pourquoi ? Bon, pas de chance, ça ne marchera pas. Bon, ça sera pour une autre fois. Où on voyait effectivement le phénomène de déshydratation de la plaque qui allait modifier la structure supérieure et créer du volcanisme. Quand on a ça, c'est facile de dire, voilà, j'ai une plaque qui subducte. Faut-il encore être sûr que la plaque est subducte ? Est-ce qu'on est sûr de voir cette structure sous-jacente ? Eh bien, il y a les sismologues qui, en travaillant sur la propagation des ondes issues des séismes qui se propagent là, vont arriver à obtenir une image de la structure interne du globe sur quelques centaines de kilomètres, voire plusieurs centaines de kilomètres. C'est ce qu'on appelle la tomographie sismique. Et là, je vous montre des exemples. C'est le profil qui va... Donc, vous avez le Japon ici, l'Asie. Et donc, quand on étudie les tremblements de terre qui sont dans cette zone-là et qu'on regarde l'image du milieu qui a été traversé par ces ondes, on obtient cette figure-là qui vous montre des zones où les ondes ont été accélérées, donc ici en bleu, et les zones qui ont été, dans lesquelles les ondes ont été ralenties, ici en rouge. Quand on dit accélérer ou ralentir, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est lié à la rhéologie de la matière. Une onde qui se propage plus froid, d'accord ? Donc ça veut dire que cette notion bleue que de kilomètres de profondeur. Donc la zone de subduction est bien identifiée et correspond bien à la zone de destruction de matière. Lorsqu'on a continent-continent, bah, c'est pareil que océan-océan. C'est-à-dire qu'on a deux structures de densité équivalentes qui vont se rencontrer l'une contre l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, si vous prenez une voiture contre un camion, vous voyez que la voiture passe sous le camion. Quand vous avez deux camions qui se rencontrent, les deux s'écrasent l'un contre l'autre et forment des plissements. Et bien pour les continents, c'est la même chose. Et c'est là où on va avoir la création de chaînes de montagnes. Exemple, l'Inde est une petite plaque continentale qui était avant du côté de l'Afrique du Sud. Elle est remontée par des rives continentales, et en remontant, donc la plaque qui l'a supportée est allée subducter sous l'Asie. L'océan qui était entre les deux a disparu, d'accord ? Et à un moment donné, quand il n'y avait plus l'océan, eh bien la plaque indienne est venue tamponner la plaque Asie. Cette rencontre a créé ce qu'on appelle une chaîne de montagne. Ça y est, on comprend ce que c'est qu'une chaîne de montagne. La chaîne de montagne est la conséquence de la convergence de deux plaques tectoniques. Et c'est le plissement des matériaux qui étaient en profondeur, avec dans les chaînes de montagne, effectivement, les sédiments marins qui existaient avant, dans la mer qui était juste avant. Donc on comprend maintenant pourquoi on a des fossiles marins qui se retrouvent à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres d'altitude par rapport au niveau marin. Si on regarde effectivement, là vous avez une carte topographique de la surface, on voit l'Inde ici, et on voit que de part et d'autre de cette Inde, il y a ici des grands filets, des fonds océaniques, qui sont en fait des marqueurs de cette dérive continentale de l'Inde, et ces marqueurs, c'est ce qu'on appelle des failles transformantes. C'est la troisième discontinuité d'une plaque. On a vu la zone de convergence, de divergence, la création de matière, les dorsales médio-océaniques. On a vu les zones de convergence, subduction. Et donc ensuite, quand vous avez des plaques qui coulissent les unes contre les autres, on appelle ça des failles transformantes. Les plaques tectoniques à la surface du globe sont limitées par l'une de ces trois ou plusieurs de ces trois limites. Et donc, nous avons trois frontières. Constructive, c'est-à-dire construction de matière, destructive, destruction de matière pour les zones de subduction, et conservatrice, ce sont les failles transformantes. Des failles transformantes, on en voit, par exemple, en Amérique du Nord aussi, ou en Amérique du Sud, et puis dans d'autres endroits, comme en Turquie. Mais par exemple, vous avez ici la carte de l'Amérique du Nord avec Los Angeles, San Francisco et avec une fameuse faille qui s'appelle la faille de San Andreas qui sépare la plaque du Pacifique et la plaque américaine du Nord. Eh bien, ces deux plaques coulissent l'une contre l'autre et effectivement, dans plusieurs dizaines de millions d'années, eh bien, la péninsule que vous avez ici va progressivement remonter vers le Nord. Et dans peu de temps, Los Angeles, bon, dans peu de temps, dans millions d'années, une dizaine de millions d'années, excusez-moi, ça c'est mon... Los Angeles se retrouvera en face de San Francisco. Vous imaginez la mégapole. Et puis, dans peut-être 20 ou 30 millions d'années, eh bien, cette presqu'île, en fait, sera une île à part entière, paumée dans le Pacifique. Okay ? Et ça, on peut retrouver d'autres exemples comme ça à l'échelle de notre planète. On en arrive donc à la surface de notre globe, qui est une structure, qui est composée qui est une mosaïque de plaques. Je vous montre ici les principales plaques tectoniques qui ont des tailles variées, parce qu'effectivement, ça ne cesse d'évoluer depuis l'histoire de la Terre, la naissance de la Terre. Vous avez ici des grandes plaques, comme la plaque Pacifique, la plaque Nazca, la plaque ici Caraïbe, et toutes ces plaques, donc ce sont les 12-13 principales plaques tectoniques, se baladent les unes par rapport aux autres. Une grande plaque peut ensuite se morceler en deux autres plaques, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui prévaut comme distribution des plaques tectoniques principales. D'accord ? Il y a des chercheurs qui se sont amusés à regarder ce qu'il y avait au cours des 240 derniers millions d'années. Donc, c'est l'exemple de M. Bess, qui est donc chercheur à l'Institut de physique du globe de Paris, qui a essayé de reconstruire, grâce à la mémoire magnétique des roches, l'évolution des continents au cours des 240 millions d'années. Donc vous allez avoir ici le compteur, 250 millions d'années, et vous avez ici donc à peu près la plongée, rappelez-vous, ce que proposait Wegener au début du siècle, du XXe siècle. Vous allez voir que ces continents vont donc évoluer. Et on va voir certaines zones, par exemple, se balader, en particulier l'Inde. Je vais essayer de suivre avec vous la chose. Donc, que je ne me trompe pas. Voilà, ah zut. Et voilà, zut. Ah, attendez, excusez-moi, il y a un problème. Voilà. Donc vous voyez ici, ça s'ouvre et ça ferme. Donc vous avez une partie de mer qui ferme. Vous avez des blocs continentaux qui vont commencer à migrer. Ici, vous avez l'Atlantique, ça y est, qui s'ouvre. Hop, s'éloigne. Vous allez avoir l'Amérique du Sud, l'Atlantique Sud, pareil, qui s'ouvre tranquillement. Vous allez avoir ici l'Inde. Vous allez voir l'Inde qui va se balader. Regardez, hop, elle remonte. Paf, elle vient tamponner l'Inde, l'Asie. Et vous avez du matériel ici qui est, à ce moment-là, déplacé latéralement, et ça crée donc tout ce qui est toutes les îles Philippines, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, ça c'est assez, amusant. Si on regarde encore, parce qu'il y a des choses assez amusantes, vous allez regarder l'Espagne, par exemple. Alors attendez, l'Espagne est là, d'accord ? Vous voyez, l'Espagne, à ce moment-là, elle était plutôt contre le continent européen. Vous allez voir, elle va s'ouvrir, elle va pivoter. Elle va pivoter, allez hop, vous voyez, elle pivote, elle crée les Pyrénées. Vous voyez ici une langue, l'Italie, qui va venir tamponner l'Europe et créer les Alpes. L'Italie, c'est l'Afrique. Alors bien sûr, si je dis ça entre un Napolitain et un Milanais, il va râler. Le Milanais va dire, le Napolitain sera un Africain, et le Napolitain dira au Milanais, toi, t'es rien, t'es même pas un Européen, t'es rien du tout. Mais en fait, la plaque africaine se balade ici. D'accord ? Et elle est en train de tamponner l'Europe en créant la chaîne des Alpes. D'accord ? Donc finalement, ce balai ne cesse d'évoluer au cours des temps géologiques. Et ça, c'est donc la tectonique des plaques, comme nous l'avait suggéré Alfred Wegener, à partir quand même d'études précédentes, entre autres, donc provenant de d'autres géologues et d'autres scientifiques. Quel est le moteur de la tectonique des plaques ? Et c'est là où on va revenir à ma première question. Quel est ce fameux paramètre qui contrôle tous ces phénomènes derrière ? Qu'est-ce qui fait que la tectonique des plaques bouge ? Eh bien, il faut aller chercher dans l'énergie thermique. C'est le paramètre température qui règle tout ça. La Terre est une immense machine qui ne cesse d'évoluer au cours des 4,5 milliards d'années et qui va continuer à évoluer. Vous avez l'atmosphère, vous avez la lithosphère qui est donc la plaque tectonique, vous avez dessous ce qu'on appelle l'asthénosphère, le noyau liquide et la graine solide. Ça, on le sait depuis à peu près le début du XXe siècle grâce à la sismologie. Cette planète Terre, quand elle s'est formée, elle a emmagasiné de la chaleur et elle présente des éléments radioactifs qui dégagent de la chaleur. Cette Terre, elle se refroidit. Elle se refroidit par des mouvements de matière au même titre que votre casserole, quand vous la chauffez par-dessous, elle a besoin de se refroidir, puisque vous lui donnez de l'énergie. Eh bien, cette casserole d'eau, elle refroidit en se mettant en mouvement. Quand vous mettez de l'eau dans votre casserole et que vous la chauffez, au début, votre eau, elle ne bouge pas. Elle transporte tranquillement sa chaleur par ce qu'on appelle par conduction. Sans déplacement de matière, la chaleur passe tranquillement d'une molécule à une autre. Mais à un moment donné, si cette chaleur devient très importante, la matière, elle a envie de bouger. D'accord ? Et donc, progressivement, elle va dire « Waouh, il fait chaud, j'ai envie de dégager un peu ça parce que je ne vais jamais tenir le coup. » Et donc, elle va évoluer. Et en particulier, sa masse volumique va changer. Et donc, la masse volumique changeant, en particulier, elle va devenir un peu plus faible, eh bien, dans le champ de gravité terrestre, elle va avoir tendance à s'élever et on va avoir ce qu'on appelle un mouvement de convection. Donc, c'est ce que vous avez dans votre casserole. Cette convection peut être relativement tranquille, sous la forme de rouleaux, bien organisés, mais elle peut être aussi relativement agitée. Il peut y avoir des zones qui vont descendre, des zones qui vont monter, qui vont migrer, mais on a du mouvement de matière, c'est la convection. Eh bien, la Terre, ça va être la même chose. La Terre, pareil, au cours de sa formation, et à l'heure actuelle, cette chaleur, elle essaye de l'extraire. Et donc, à l'intérieur de la Terre, le matériel va se mettre à convecter et à créer des cellules de convection qui vont permettre à la chaleur qui vient du dessous, du noyau, de partir vers l'extérieur. Et ces mouvements de matière, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ces mouvements de matière vont donc organiser la Terre, vont organiser des structures dans la planète Terre, en particulier dans le noyau et dans le manteau. Ces mouvements de matière dans le noyau vont créer le champ magnétique de la Terre. Et les mouvements dans le manteau vont amener, vont conduire la tectonique des plaques. Comment ? Ben, tout simplement en regardant ça, vous avez ici donc la sténosphère, le manteau, qui convecte sous l'effet de la chaleur par des cellules de convection que j'ai simplifiées ici de manière, je dirais, à peu près sphérique. La chaleur monte. En montant, elle perce le plancher océanique. Si vous avez un chalumeau relativement important et long dans le temps, vous allez créer un trou ici. Vous allez donc créer du magma. Mais en créant du magma, vous allez provoquer des forces de friction, puisque comme le magma ne peut pas partir, peut pas continuer à monter dans l'atmosphère, il va partir latéralement, et il va donc former le plancher océanique, et par frottement, il va entraîner la plaque. Donc oui, la plaque tectonique va trouver son mouvement, l'origine de son mouvement, dans les mouvements de convection qui sont sous-jacents. Il y a d'autres forces, je vais passer relativement vite, il y a effectivement, à partir du moment où vous créez ici une élévation d'altitude, puisque vous êtes en train de percer, donc de monter le plancher océanique d'une certaine valeur, hein, c'est quoi ? Ça peut être quelques centaines de mètres à 1000 ou 2000 mètres par rapport au niveau moyen du plancher, et bien entre ce niveau-là et ce niveau-là, vous avez un toboggan. Et donc la plaque, hein, si vous mettez une plaque, si je soulève ma table ici d'un certain niveau, et bien je ne vais pas percevoir que tout naturellement, mon objet va glisser gravitairement. Eh bien, la plaque tectonique, c'est la même chose à l'échelle de la planète, puisqu'au niveau de la dorsale médio-océanique, elle est soulevée, et que dans les fosses, elle s'enfonce, eh bien, elle est comme ça, ma plaque. Et donc, tout naturellement, dans le champ de gravité, elle glisse. D'accord ? Donc, ça résulte tout de même de la convection qui a poussé la plaque au niveau de la dorsale en altitude. Et puis, le troisième point, mais ça, je vais dire deux mots vite fait, c'est qu'une fois que la plaque s'est enfoncée dans le matériel mantélique, eh bien, elle tire vers le bas. Au même titre que lorsque vous êtes sur le bord de la piscine, par exemple, et que vous ne touchez pas le sol et que vous laissez glisser tout doucement, le poids de vos jambes et ensuite de votre corps vous entraîne tout naturellement vers le bas. Bien, la plaque tectonique, c'est la même chose. D'accord ? Donc finalement, tout ça, c'est quand même relié à la dynamique interne de la planète et donc à des phénomènes de profondeur. Et c'est là où Wegener, quand même, a été fort de se dire ces phénomènes de surface sont liés à des phénomènes de profondeur. Tout ceci m'amène donc progressivement à terminer cet exposé en vous disant, ben oui, plaque tectonique, c'est donc le recyclage de matériels qui sont en profondeur, qui arrivent en surface et qui repartent en profondeur. Donc la Terre est un système fermé, qui bouge continuellement, qui convecte, avec du matériel qui vient se différencier, se transformer en surface et qui repart en profondeur, qui est réchauffé et qui repart dans le système convectif. Il produit des phénomènes géologiques importants en surface, séisme, volcanisme, déformation de la plaque. Ces chaînes de montagnes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles créent donc du relief, mais l'atmosphère, elle est toujours là au-dessus, et donc elle va être modifiée avec ces élévations de topographie. Donc le climat qui résulte des variations de soleil à la surface du globe
et de l'inclinaison du Soleil par rapport à l'inclinaison de la surface, eh bien, ces zones-là vont modifier le cycle des nuages et le cycle de l'eau. Vous avez, en fait, en comprenant tout ça, le cycle de l'eau dans le phénomène Terre. Atmosphère, structure profonde, plaque tectonique sont intimement liées dans la dynamique globale de la planète Terre. Comprendre la tectonique plaque, la tectonique des plaques, c'est comprendre la géodynamique dans sa globalité. Et c'était ça qui était très difficile pour Wegener et pour les scientifiques de l'époque. C'est de partir d'une constatation, mais d'avoir une image globale du phénomène. Et c'est là où il a fallu travailler avec des gens très différents, des physiciens, des chimistes, des géologues, et ainsi de suite, pour avancer dans une théorie et arriver à en faire un bel objet, un bel outil. La question c'est, mais quand la tectonique des plaques s'arrêtera? Quand la tectonique des plaques s'arrêtera? Comment? Exact. Ben, quand il n'y aura plus de chaleur. Quand la Terre aura évacué toute sa chaleur. Donc, quand la Terre aura évacué toute sa chaleur, la convection s'arrêtera. Si la convection s'arrête, donc dans le manteau en particulier, ou dans le noyau après, on n'aura plus de volcanisme. Si la convection s'arrête, on n'aura plus de mouvement de plaques. Si les plaques s'arrêtent, on n'aura plus de montagnes. Donc il va y avoir érosion des montagnes. Le relief va s'aplatir. D'accord ? On aura donc des reliefs qui vont disparaître progressivement. Mais si on n'a plus la convection et qu'il n'y a plus de convergence, on n'aura plus de séisme. Donc dur pour les sismologues. D'accord ? Je ne suis pas sismologue, donc ça va. Mais si on continue, et c'est là où moi je suis touché, un petit peu, mais plus maintenant, parce que j'ai fait une autre activité de recherche, si la convection s'arrête, le champ magnétique s'arrête. Si le champ magnétique s'arrête, et ça pourrait être l'objet d'un autre exposé, si le champ magnétique s'arrête, cette grille magnétique qui nous englobe, que l'on ne voit pas, mais qui va jusqu'à plusieurs milliers, dizaines de milliers de kilomètres de nous, de la surface du globe, elle nous protège des rayons du Soleil. Si ce champ magnétique s'arrête, eh bien la grille magnétique qui nous entoure va disparaître. Et si elle disparaît, cette grille magnétique, eh bien les rayons du Soleil vont toucher plus facilement la surface du globe. Et si les rayons du Soleil touchent plus facilement la surface du globe, c'est la vie qui va être modifiée. Donc, finalement, quand on parle de tectonique des plaques, on va parler de tout ça, l'énergie globale du système. Et le jour où ça s'arrêtera, c'est pas pour demain, mais c'est pour, en tout cas, un certain temps, on va dire, eh bien, on aura un arrêt global de la dynamique de la planète Terre et on finira vers une planète qui est dynamiquement morte, comme d'autres planètes, par exemple Mercure, peut-être Mars, Vénus, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on ira vers un système totalement différent où la vie sera totalement modifiée. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. J'espère que j'aurai donné un peu une notion globale pour vous permettre d'avancer.